Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. Comment la croissance pourrait-elle être infinie dans un monde fini? En 1972, un rapport explosif du MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, mettait cette question au centre des débats et devenait un best-seller, 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Co-rédigé par le physicien américain Dennis Meadows, ce rapport intitulé « Les limites à la croissance » mesurait l'impact de l'activité humaine sur la planète et mettait en garde contre l'épuisement inéluctable des ressources naturelles si la démographie, l'industrialisation, la croissance continuaient à un rythme effréné, avec une conclusion glaçante, un crash, un effondrement du système planétaire se produirait au XXIe siècle. 50 ans après la publication de ce rapport, censé influencer les politiques, la situation n'a fait qu'empirer. En cause, la surconsommation, la surproduction, la surpêche, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre ou encore le mépris de l'environnement qui ont conduit au réchauffement climatique. Alors avons-nous atteint, voire dépassé les limites planétaires? Allons-nous continuer à foncer droit dans le mur ou sommes-nous capables d'en finir avec le toujours plus, de changer de mode de vie, de consommer moins, de vivre sans épuiser les ressources de la planète? Autant de questions qu'on va aborder avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Audrey Boëlly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique et vous avez réalisé une série de podcasts, Dernière Limite, sur l'impact et la pertinence du rapport Meadows. Le premier numéro de la série est paru le 3 mars. Le deuxième est disponible depuis hier, mercredi, sur les principales plateformes de podcasts. En ligne d'Annecy, Aurélien Bouteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de la Terre et de l'environnement, chercheur associé au CNRS et vous faites partie des 12 experts interviewés par Audrey Boëlly pour son podcast. Vous serez l'invité de l'épisode numéro 10, A-t-on dépassé les limites? Mathieu Ozano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique, The Shift Project, qui publie chez Odile Jacob, Climat Crise, le plan de transformation de l'économie française. Et on pourra vous écouter dans l'épisode 7 de Dernière Limite, Énergie, l'overdose. Mais tout de suite, Dennis Meadows.
Il était évident, au moins pour nous, que la croissance physique ne pouvait pas continuer éternellement sur la planète. C'est comme dans une voiture. Quand vous voyagez en voiture, vous comprenez qu'elle ne peut pas avancer éternellement. Elle doit finir par s'arrêter. Et il était clair pour nous qu'il devrait y avoir un ralentissement de la croissance. Malheureusement, il y a de longs délais de réaction dans notre système, de sorte que si vous ne commencez pas à agir avant de voir les problèmes se produire, il est déjà trop tard. Et c'était ça la principale conclusion de notre rapport. Si nous ne commencions pas immédiatement à essayer de stabiliser le système, il allait dépasser les limites et ensuite, bien sûr, il allait décliner.
Dennis Meadows, extrait du premier épisode de Dernière Limite. Audrey Boëlly, comment vous est venue l'idée de réaliser cette série de podcasts qui sort pour l'anniversaire du rapport Meadows?
C'est tout simplement la découverte de ce rapport, un peu par hasard. Hein, c'est un ami qui m'en a parlé. C'est un rapport qui pose des problèmes fondamentaux sur les directions qu'a pris notre société depuis 50 ans et qu'elle continue à prendre aujourd'hui, c'est-à-dire la poursuite de la croissance sans tenir compte des limites planétaires. Et pourtant, finalement, c'est un rapport dont on a très peu entendu parler. Moi, que j'ai découvert très tardivement. Pourtant, je suis ingénieure, j'ai fait des études de sciences, je suis journaliste scientifique. Donc, voilà, on aurait pu penser qu'il me serait tombé dans les mains ou qu'on m'en aurait parlé beaucoup plus tôt. Et en fait, ce rapport a complètement été enterré, hein, malgré, vous en avez parlé, le succès qu'il a eu au moment de sa publication. Et donc, chez moi, ça a déclenché vraiment une prise de conscience. C'est-à-dire que jusque-là, bien sûr, j'étais vraiment inquiète par rapport aux questions de la crise climatique, hein, à laquelle on fait face, comme beaucoup de parents. Moi, je suis mère de deux filles de 9 et 11 ans, et évidemment, voilà, c'est une question sur laquelle je me sens très concernée. Mais finalement, je faisais partie, à l'époque, plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les techno-optimistes, c'est-à-dire que en tant que journaliste scientifique dans une rédaction, j'étais confrontée tous les jours à plein d'innovations, plein de nouvelles découvertes qui sortaient des laboratoires. Et donc, finalement, je me disais, bon, il y a des chances qu'on arrive à continuer comme avant.
C'est-à-dire, on trouvera des solutions.
Voilà, il y a des solutions. Et finalement, j'étais une adepte à ce moment-là. Je croyais à ce récit de la croissance verte qui, finalement, est assez confortable parce que ça veut dire qu'on peut continuer les choses comme avant, juste, entre guillemets, en décarbonant notre énergie, en émettant moins de CO2. Et en fait, en découvrant ce rapport, ça m'a donné une vision globale que finalement, on a assez rarement. C'est-à-dire, on se dit, on regarde chaque problème et on se dit, on va trouver une solution. Mais quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble, c'est-à-dire que quand on regarde globalement l'ensemble des activités humaines, les ressources qu'on consomme, la pollution qu'on produit, en fait, c'est ce que dit le rapport Meadows, c'est que on arrive à une limite, on touche à ces limites planétaires. Et dans le rapport Meadows, il y a plusieurs scénarios qui ont été faits et qui montrent que si la croissance se poursuit, soit on finit par manquer de ressources, soit la pollution, on est débordé par la pollution où finalement nos émissions, nos rejets. Là, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le CO2 et cette crise climatique. Et aussi le fait que on y est 50 ans après, sur 9 limites planétaires définies par les scientifiques. On en a dépassé 5, une dernièrement là au mois de janvier, et il y en a 2 qui sont en passe d'être dépassées. Donc voilà, on est aujourd'hui dans cette alerte rouge.
Aurélien Bouteau, est-ce que le rapport Meadows vous semble encore plus pertinent aujourd'hui qu'en 1972, date de sa parution ?
C'est vrai que ce qui est un petit peu effrayant, c'est précisément que ça fait 50 ans qu'il est sorti. Les conclusions, c'était un modèle qui était assez rustre. On était au tout début de la modélisation des systèmes complexes avec l'apparition des premiers ordinateurs qui permettaient vraiment de faire de démultiplier les capacités de calcul et faire de la modélisation de systèmes complexes. Donc forcément, le modèle était un peu rustre, mais il permettait quand même de dégager des tendances qui se sont très, très largement vérifiées, même s'il y avait plusieurs scénarios. Et dans les années 90, quand il a été réactualisé, on a affiné à nouveau un petit peu les conclusions. Et ce qu'on peut dire véritablement, c'est que ce que préfigurait déjà dans les années 70, au début des années 70, le rapport du Club de Rome, le fameux rapport Meadows, c'est des choses qui sont en grande partie confirmées dans les décennies qu'on suivit, avec même des problématiques qui sont apparues de manière plus puissante. On a évoqué évidemment le changement climatique. Ça, c'était très peu pris en compte, très mal pris en compte à l'époque. Typiquement, voilà, c'est les conclusions générales du rapport du Club de Rome sont on ne peut plus actuelles aujourd'hui, même si le diagnostic s'est très, très, très largement affiné depuis.
Mathieu Ozano, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport du MIT a été effectivement commandé par le Club de Rome, qui était un groupe de réflexion, on dirait aujourd'hui think tank, composé à la fois d'industriels et de scientifiques. Il pressentait déjà la raréfaction des ressources, qu'on ne pourrait pas indéfiniment fonctionner sur les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole.
Oui, il y a toute une histoire qui est assez mal connue, où des technocrates, des industriels, qu'ils soient chefs d'entreprise ou ingénieurs ou les deux, tout au long du XXe siècle, même dès les années 20, il y a un mouvement qu'on a un peu oublié qui s'appelait le mouvement de la technocratie, qui n'était pas du tout un terme péjoratif à l'époque, qui se posait plein de questions très tôt en fait, je pense qu'ils ont inspiré aussi le travail de Dennis Meadows, de gens qui avaient les mains sur les leviers techniques et qui se disaient, à un moment donné, ce qu'a dit très clairement Dennis Meadows, à un moment donné, il n'y aura pas assez de carburant. Où il y aura trop de déchets qui feront qu'on va avoir un processus de croissance qui va se stopper. Et ça, il y a toute une profondeur historique qui est assez mal connue, mais qui est réelle, où vous avez plein d'industriels qui, assez tôt dans l'histoire industrielle, se disent, à un moment donné, ça va coincer.
Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas réagi après la publication du rapport ?
Alors, il y a eu des réactions extrêmement...
Enfin, il y a eu beaucoup de réactions, mais après, est-ce que les politiques ont changé ?
Cette mauvaise nouvelle, plein de gens l'ont entendu. Ça a suscité énormément de commentaires, de recherches, de réactions dans tous les sens. Ça a beaucoup heurté tous les gens qui fondaient précisément leur analyse du monde sur la nécessité de la croissance. Et en cela, ce qui est assez frappant, c'est que les gens qui étaient capitalistes retrouvaient Georges Marchais, côté communiste en France, pensaient beaucoup de mal du rapport Meadows. C'est-à-dire que tous les productivistes de gauche, de droite, se sont retrouvés pour dire « mais ça, c'est pas de la science, c'est n'importe quoi ». Par contre, les gens qui avaient une approche technique, physique des phénomènes économiques, c'est là le fondement du succès, se sont dit « il y a quelque chose qui est très juste, très bien vu là-dedans. Donc ça a suscité au contraire énormément de débats. Et on peut dire d'une certaine façon que c'est l'un des actes de naissance de l'écologie politique.
Vous voulez dire que les travaux du MIT, par exemple, vous ont servi de référence, de base à vos travaux au sein du
Absolument. Ça fait partie des références communes. Vous savez, comme dans les mouvements musicaux, on se retrouve sur certains artistes. Et ben là, dans ce mouvement intellectuel dont on est représentatif au Shift, on a tous croisé à un moment donné l'histoire du rapport du Club de Rome. Ouais.
Aurélien Bouteau, Audrey parlait tout à l'heure des limites planétaires. On a dépassé la 5e limite planétaire au début de l'année avec la pollution chimique. Il en existe combien de limites ?
Alors, c'est difficile de dire combien il y a de limites, mais en tout cas, dans la littérature scientifique aujourd'hui, on a identifié 9 ou 10 limites planétaires, c'est-à-dire des variables qui déterminent les grands équilibres écologiques à l'échelle planétaire. Je peux en citer quelques-uns. Il y a le changement climatique, ce qu'on appelle l'intégrité de la biosphère, donc en gros tout ce qui est lié à la biodiversité, le changement d'affectation des sols, donc en gros la répartition des différents types de sols à l'échelle planétaire, l'utilisation de l'eau douce, les cycles biogéochimiques du phosphore, de l'azote, je ne vais pas tous vous les faire. Mais voilà, c'est des éléments qui déterminent les grands équilibres écologiques à l'échelle planétaire, à l'échelle, on va dire, temporelle de ce qu'on appelle l'Holocène, quoi, les 11 000 dernières années. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, alors depuis un siècle et demi, c'est qu'un certain nombre de ces éléments sont bousculés par l'activité humaine. Alors évidemment, le changement climatique, par exemple, hein, quand on mesure la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on constate qu'elle est de plus en plus importante, et ça, c'est évidemment lié à l'activité humaine. Si on regarde l'acidification des océans, c'est la même chose. Donc on voit des évolutions de ces différentes variables qui sont liées à l'activité humaine. Et effectivement, quatre axes, ça dépend comment on les mesure, sont aujourd'hui considérés comme dépassés, c'est-à-dire qu'on a franchi des stades qui sont potentiellement irréversibles, donc avec des effets sur le fonctionnement de la biosphère, hein, qui sont à l'échelle planétaire, quoi.
Mathieu Ozano, il n'y a vraiment pas de retour en arrière possible. Si je prends un exemple, une fois que l'Arabie Saoudite, par exemple, aura vendu tout son pétrole, c'est terminé, il n'y aura plus jamais de pétrole dans le sous-sol saoudien.
À l'échelle de l'histoire humaine, non. L'échelle de temps géologique est un tout autre ordre de grandeur que l'échelle des temps historiques.
Audrey Boëlly, vous avez interviewé pour ce podcast Denis Meadows. Est-ce qu'il est inquiet de voir aujourd'hui ses prédictions se réaliser ou se profiler, ou est-ce qu'il est un peu amer d'avoir tiré pour rien ou presque la sonnette d'alarme ?
Non, c'est sûr que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a lancé l'alerte dans le désert pendant 50 ans, mais finalement qui est assez, entre guillemets, philosophe sur la question, c'est-à-dire qu'il regarde avec une grande lucidité, je trouve, la situation actuelle, en disant que finalement, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, on est malheureusement, j'ai envie de dire, en ligne avec l'un des pires scénarios du rapport Meadows, et qu'en fait, il faut regarder les options qui nous restent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va se retrouver face à des chocs, et donc ça c'est évidemment ce qui nous dit, et c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui, et que du coup il va falloir faire des choix, on va être mis face à des choix. En fait, à l'époque, il y a 50 ans, on avait plus de marge de manœuvre, évidemment, et il y avait un scénario en particulier du rapport qui disait que si on arrivait à stabiliser la croissance et la population mondiale, en fait on arriverait à stabiliser le système et finalement à être dans cette durabilité, hein, par rapport aux écosystèmes mondiaux. Évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui. Et donc, il faut voir, on a atteint ses limites et il faut voir comment naviguer dans, finalement, avec des ressources et des contraintes qui vont être plus importantes. Donc, c'est une question des choix qu'on veut faire en tant que société. Comment on fait pour préserver l'essentiel? L'essentiel étant un niveau de vie correct pour tous, en réduisant les inégalités, en partageant mieux, en fait, les ressources qui restent à notre disposition, en préservant la santé, l'éducation, la démocratie, bref, en faisant des choix de société, mais qu'il est illusoire, en fait, de continuer à poursuivre le modèle qu'on essaye à toute force de poursuivre aujourd'hui, c'est-à-dire maintenir, nous, en tant qu'Occidentaux, un modèle de société de surconsommation, de prédation des ressources, que ça, de toute façon, c'est une illusion et qu'il faut, voilà, vraiment prendre conscience de cette limite-là.
C'est pas du vent sur RFI.
J'ai leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tricks. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz fortes avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque d'un père, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où...
L'odeur de l'essence, Orelsan dans C'est pas du vent sur RFI. 50 ans après sa publication, le rapport Meadows, les limites à la croissance dans un monde fini, n'a jamais été aussi actuel. On continue d'en discuter avec nos trois invités. La journaliste scientifique Audrey Boëli, auteure de la série de podcasts Dernière Limite. Aurélien Bouteau, chercheur associé au CNRS. Et Mathieu Ozano, directeur du Shift Project. On va écouter Denis Meadows expliquer pourquoi, d'après lui, on a préféré oublier les conclusions alarmantes de son rapport.
Je pense qu'il peut y avoir deux raisons à cela. La grande majorité de l'humanité ne se soucie pas vraiment de ce genre de choses. Sur les plus de 7 milliards d'habitants de la planète, la plupart veulent simplement se lever le matin, nourrir leurs enfants, aller au travail, s'occuper de leur maison, passer du temps avec leurs amis. Les problèmes mondiaux ne sont tout simplement pas une préoccupation pour eux, d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, même si le livre est présenté comme un best-seller, sur 100 000 personnes, peut-être une ou deux ont eu en main un exemplaire du livre. Le deuxième groupe qui a été impliqué dans la tentative de nier ou d'ignorer ces idées sont les hommes politiques. Les hommes politiques ont besoin de la croissance pour fonctionner. Ce sont eux qui allouent les ressources. Il n'y en a jamais assez pour tout le monde à court terme. Si vous êtes assis avec deux personnes proposant une action et que cette action va donner à l'une d'entre elles moins qu'à l'autre, si elles s'attendent toutes deux à obtenir plus sur le long terme, elles seront d'accord. Mais s'il est clair qu'il n'y aura pas de croissance, que donner moins à l'un maintenant signifie qu'il y aura moins pour toujours, ils ne seront pas d'accord et ils bloquent l'action. Et donc les hommes politiques, pour fonctionner, ont absolument besoin de la croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous continuons à accumuler de la dette en espérant que la croissance nous permettra de les rembourser à l'avenir. Plutôt que de traiter cette question, ils nient tout simplement que c'est un problème. Ces deux raisons ont empêché que ces questions émergent.
of great concern.
Mathieu Ozzano, on paye aujourd'hui notre vision à court terme et auto-centrée, notre aveuglement ou notre inconscience ?
On commence à la payer, ouais. Enfin, il y a des gens qui la payent cash dans un certain nombre d'endroits sur Terre très exposés aux impacts qui sont en première ligne, hein, dans cette région littorale, en Inde, au Bangladesh ou en Chine, sont en première ligne de la pollution atmosphérique. Il y a plein de gens, ou même en Afrique, il y a plein de gens qui payent ça cash. Il y a aussi un pacte faustien beaucoup plus large et profond entre les besoins de consommation industrielle occidentaux et la perpétuation de régimes totalitaires qui sont fondés sur le contrôle de ressources vitales pour le monde développé.
Alors vous pensez, j'imagine, à la Russie, puisque est-ce que cette...
Je pense aussi à un certain nombre de pays africains, puisqu'on est sur RFI, on les connaît, il y a un certain nombre de régimes qui... ou de caste au pouvoir aujourd'hui, qui ne serait plus là s'il n'y avait pas eu une espèce de dialectique du maître et l'esclave entre les consommateurs, les esclaves étant nous, pays consommateurs, et les maîtres étant ceux qui détiennent la ressource. Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, ce sont des gens, par exemple, on pourrait citer d'autres pays, hein, Nigeria, Algérie, on a toute une famille comme ça de potentats, qui ne tiennent que parce qu'ils tiennent une ressource vitale pour un système qui a besoin de dépasser les enjeux moraux et éthiques pour assouvir les besoins de la croissance économique.
Je reviens à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que le fait qu'on ait pris conscience tout à coup de notre dépendance vis-à-vis de la Russie, dépendance par rapport au gaz, par rapport au pétrole, est-ce que paradoxalement, cette prise de conscience pourrait faciliter la transition écologique ici ? Est-ce que
Il faut l'espérer, mais je reviens à mon image du malade qui peut avoir très bien eu le diagnostic depuis très longtemps, mais qui a besoin quand même d'aller au bout du diagnostic, de le sentir dans sa chair pour se dire « Ah oui, il faut peut-être que j'arrête de fumer, là ». L'Europe, on sait depuis très longtemps qu'on est beaucoup trop dépendant, précisément, en l'occurrence, des ressources contrôlées par M. Poutine.
Mais là, on le voit aujourd'hui. On en parle matin, midi et soir.
On en parle matin, midi et soir, mais il y a eu déjà de nombreux épisodes avant-coureurs, on peut remonter à l'époque soviétique, hein, où il y avait déjà des signes très clairs qu'il n'était pas très très bon d'être au bout d'une branche qu'on est en train de scier, quoi.
En tout cas, pour mieux comprendre cette politique de l'autruche, l'économiste Gaël Giraud nous raconte l'histoire du coyote.
Vous connaissez ce dessin animé du coyote qui court à toute vitesse, voilà. Et puis, dans quasiment chaque épisode, il lui arrive toujours la même blague, c'est-à-dire qu'il court très vite au bord d'une falaise, puis à un moment, il a dépassé la falaise, il est dans le vide, mais il continue de mouliner avec ses petites jambes dans le vide. Puis tout d'un coup, il regarde le vide au-dessus duquel il se trouve. Là, il se rend compte qu'il a dépassé la falaise et là, il tombe. Alors, le moment du coyote, c'est les quelques secondes pendant lesquelles il reste en suspens, vous voyez, dans le dessin animé. Et donc, c'est exactement ça ce que raconte Denise. Il a absolument raison, hein. C'est le fait que malheureusement, nous sommes capables de dépasser un certain nombre de frontières planétaires sans que l'effondrement apparaisse tout de suite. C'est ça qui nous trompe. Disons, un certain nombre d'entre nous disent « Mais où voyez-vous qu'il y a un problème ?» puisque pour l'instant, je ne vois aucun effondrement. Il y a un certain nombre de signaux faibles qu'il faut prendre en compte très vite pour pouvoir réagir avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'une certaine manière, on fait tous cette expérience. Quand vous conduisez en voiture, si vous roulez vers un mur, bon, si vous commencez à freiner 2 cm avant d'atteindre le mur, c'est trop tard. Il faut commencer à freiner plus tôt. Et donc, c'est ça que raconte Denise. Et alors, je crois que ça, c'est une des vraies difficultés méthodologiques, qui est comment trouver des instruments de mesure de la proximité de la catastrophe qui rendent compte du fait que même si on a déjà franchi un certain nombre de seuils irréversibles, pour l'instant, on ne voit pas partout la catastrophe. Alors, en même temps, d'une certaine manière, aujourd'hui, ce débat n'a plus lieu d'être, puisqu'on voit la catastrophe, elle est là. Je veux dire, les inondations en Allemagne, aux Pays-Bas l'an dernier, les gigantesques incendies partout, en Australie, en Indonésie, en Amazonie, aux États-Unis, bon, c'est quand même la démonstration du fait qu'il y a déjà des catastrophes partout. Malheureusement, d'une certaine manière, dans les zones tempérées, en particulier en Europe, on est moins exposé. Donc, à part ceux qui vivent dans les montagnes, par exemple, et qui voient la disparition des glaciers, hein, chaque année, ou la raréfaction de l'eau, et puis ceux qui vivent en bord de mer, qui voient la montée du niveau de la mer, disons les urbains, de nouveau, les CSP+, protégés à l'intérieur en centre-ville, se rendent moins compte de l'impact réel dès aujourd'hui du dérèglement climatique et plus globalement écologique.
Gaëlle Giraud, invitée du deuxième épisode de la série de podcasts d'Audrey Boëly, Dernière limite. Alors la croissance, on en parlait tout à l'heure, la croissance représentée par le PIB, le produit intérieur brut, est-elle synonyme de progrès ou un dogme qui nous a entraînés dans une fuite en avant catastrophique? Je vous propose d'écouter ce que nous disait dans C'est pas du vent un autre économiste, Éloi Laurent.
Ça fait quasiment 80 ans, on est toujours dans ce paradigme de cette erreur fondamentale qui d'ailleurs avait été dénoncée par l'inventeur du PIB lui-même. Simon Kuznets avait mis en garde dès l'invention du PIB pour dire ça n'est pas un indicateur de bien-être. Et notamment, un des arguments fondamentaux, c'était que ça n'est pas un indicateur de bien-être parce qu'il ne mesure pas les inégalités. Le bien-être humain, une vie heureuse, dirait, aurait dit Aristote, c'est quoi? C'est en fait pour tout le monde instinctivement la santé, l'éducation, le bonheur, le temps passé avec ses enfants, avec ses amis, donc le temps libre, et puis plus largement les institutions, les inégalités, la confiance, et puis plus largement encore les dimensions de la biosphère, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Le PIB mesure une part minuscule de tout cela. Et évidemment, au XXIe siècle, quand on a sous les yeux la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise démocratique, ça nous saute au visage. On est en fait prisonnier d'une boussole qui est une boussole du XXe siècle, voire même du XIXe siècle, et on est au début du XXIe siècle avec des crises qui sont absolument gigantesques sur les bras et on n'a pas d'indicateur fiable. Le problème, c'est que les gens pensent que la croissance est quelque chose d'abstrait, de philosophique, qu'on pourrait mettre en adéquation avec le progrès. Mais c'est pas ça la croissance. La croissance, c'est un indicateur particulier et ça engage les politiques publiques. C'est que c'est la croissance du PIB et le PIB, il est encastré dans nos politiques publiques. Donc quand on fait des politiques économiques aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, on prend ça comme référence. Et si vous voulez faire augmenter le PIB, vous allez faire des politiques publiques qui vont faire augmenter le PIB, y compris au détriment de toutes les autres dimensions du bien-être. C'est-à-dire que vous allez détruire l'éducation pour faire augmenter le PIB. Vous allez détruire les écosystèmes pour faire augmenter le PIB, etc. etc. Donc c'est effectivement gravissime.
Aurélien Bouteau, on n'en serait pas là aujourd'hui si on avait choisi des indicateurs autres que le PIB ?
Ah, je pense que la question est vraiment compliquée parce que je pense effectivement le produit intérieur brut, il a plein de défauts, il y a plein de choses qui mesurent mal, mais je pense qu'il ne faut pas se dire simplement qu'on a choisi le mauvais indicateur. Aujourd'hui, on sait que c'est un mauvais indicateur, on a plein d'autres indicateurs alternatifs. Le problème, c'est qu'on est structurellement dépendant de la croissance économique et donc de la croissance du PIB. Ça, c'est une question vraiment... très ancienne de choix politiques, de choix de modèle économique. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. C'est pas tant le fait de pas avoir produit d'autres indicateurs alternatifs, parce que des autres indicateurs alternatifs, on en a plein d'autres. Simplement, on est structurellement dépendant de la croissance économique pour des raisons qu'on peut développer, hein, mais c'est ça le vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, on n'est pas arrivé à sortir de cette dépendance. Il suffit pas d'inventer d'autres indicateurs. Il faut vraiment se poser les questions fondamentales de pourquoi on dépend de cette croissance. Et ça, c'est le gros morceau de la question, me semble-t-il.
Alors justement, Mathieu Ozano, faut-il renoncer à la croissance et opter pour la décroissance ?
On peut voir les choses de manière binaire. Je pense que oui, on peut dire ça comme ça. À mon avis, ce sont des concepts qui sont un peu trop gros. La question est un peu plus subtile. Il y a énormément d'activités qu'il faut développer. Il y a énormément d'activités intéressantes du point de vue des équilibres planétaires qui seraient intéressantes de faire fructifier et de faire croître. Par exemple, les services de santé, les services d'éducation, il y a tout un tas de fonctions vitales. Faire croître les activités qui permettent de bien traiter ce qui nous permet de continuer à prospérer en tant que société, c'est intéressant. Et bien souvent, en fait, on confond la notion de décroissance avec la notion de pauvreté. Je pense, enfin en tout cas c'est la perspective qu'on défend au Shift Project, qu'on peut raisonner sur une sobriété des organisations.
Oui, c'est en fait, ça la troisième voie que vous proposez au Shift Project.
Je ne sais pas si c'est une troisième voie, ça serait peut-être un peu immodeste de le croire, mais en tout cas, nous, les conclusions pratiques auxquelles on arrive, c'est que développer, faire croître les mobilités alternatives à la voiture individuelle, c'est extrêmement intéressant. Et donc, c'est un système dans son ensemble qui permet de se déplacer au quotidien, qu'on peut réorganiser de façon à ce qu'il soit plus économe, plus sobre en économie et en matière. Et en passant, ça veut dire faire décroître l'automobile et faire croître le bus, le vélo, le train, toutes les alternatives qui sont structurellement plus sobres. Donc, C'est plus subtil que ça, mais dans l'idée générale, la réponse est oui. Il y a des choses qu'il faut faire. Il faut comprendre comment est-ce qu'on peut faire fonctionner la société avec beaucoup moins d'énergie et de matière. Si on veut appeler ça la décroissance, appelons ça la décroissance.
On va entendre à nouveau Denis Midos. Qu'est-ce qui empêche les politiques d'agir dans le bon sens ? Il a un avis très tranché sur la question.
I think there may be two reasons for that.
Je pense qu'il peut y avoir deux raisons à cela. La grande majorité de l'humanité ne se soucie pas vraiment de ce genre de choses. Sur les plus de 7 milliards d'habitants de la planète, la plupart veulent simplement se lever le matin, nourrir leurs enfants, aller au travail, s'occuper de leur maison, passer du temps avec leurs amis. Les problèmes mondiaux ne sont tout simplement pas une préoccupation pour eux, d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, même si le livre est présenté comme un best-seller, sur 100 000 personnes, peut-être une ou deux ont eu en main un exemplaire du livre. Le deuxième groupe qui a été impliqué dans la tentative de nier ou d'ignorer ces idées sont les hommes politiques. Les hommes politiques ont besoin de la croissance pour fonctionner. Ce sont eux qui allouent les ressources. Il n'y en a jamais assez pour tout le monde à court terme. Si vous êtes assis avec deux personnes proposant une action et que cette action va donner à l'une d'entre elles moins qu'à l'autre, si elles s'attendent toutes deux à obtenir plus sur le long terme, elles seront d'accord. Mais s'il est clair qu'il n'y aura pas de croissance, que donner moins à l'un maintenant signifie qu'il y aura moins pour toujours, ils ne seront pas d'accord et ils bloquent l'action. Et donc les hommes politiques, pour fonctionner, ont absolument besoin de la croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous continuons à accumuler de la dette en espérant que la croissance nous permettra de les rembourser à l'avenir. Plutôt que de traiter cette question, ils nient tout simplement que c'est un problème. Ces deux raisons ont empêché que ces questions émergent.
Aurélien Bouteau, c'est normal que les lobbies soient représentés au moment des COP ?
Ah, grande question. C'est sûr qu'il faut mettre à un moment donné tout le monde autour de la table, mais les rapports de force après font que quand il faut faire des arbitrages, il faut pouvoir faire en sorte que on tire du bon côté, quoi. Et la présence de lobby dans toutes les institutions, c'est jamais forcément une très bonne nouvelle. Ça facilite pas en tout cas les transformations profondes qui seraient nécessaires. Ça, c'est certain.
Mathieu Ozano.
Quand on est fumeur, il ne faut pas blâmer le buraliste. Hein.
Vous voulez dire que les lobbies sont mandatés par derrière les industriels, les multinationales ?
Non, ça veut dire que c'est un problème fondamentalement politique de savoir qu'est-ce qu'on veut demander au système économique. Pour l'instant, il y a Denis Midos l'a dit, il y a un refus d'obstacle qui vient pour beaucoup des politiques qui ont tellement ancré dans leur esprit la nécessité de faire croître le PIB, que c'est leur seul horizon. En tout cas, c'est leur horizon, c'est l'alpha et l'oméga de beaucoup de politiques économiques. Bon, ben voilà, on arrive au moment fatidique où soit on va être capable de dépasser ce modèle-là, soit, comme dirait l'autre, après nous le déluge. Et advienne que pourra.
Audrey.
Oui, effectivement, c'est important de pointer ces blocages, parce que l'idée, c'est comment on fait pour avancer, comment on fait pour changer de direction. Et du coup, cette collusion, effectivement, entre le monde politique et le monde économique, aujourd'hui, est un verrou important. Et c'est pour ça que, finalement, ce qui est essentiel, c'est que les citoyens prennent conscience, en fait, de ces problèmes et jouent ce rôle aussi de contre-pouvoir, c'est-à-dire que réclament cette politique dont on a besoin, qui tient compte de ces limites planétaires. Donc, c'est essentiel de parler de ces sujets, de rendre accessible cette complexité. On en a parlé, hein. C'est plein de sujets qui sont liés entre eux, il n'y a pas de baguette magique, en fait. Il faut penser tous ces sujets et il faut vraiment faire un énorme virage, mais ça, on pourra le faire aussi que si un maximum de gens ont compris ces problèmes. Aujourd'hui, ils sont très peu présents dans l'espace public, même concernant la crise climatique, dont il y a vraiment un niveau de conscience élevé. On voit le dernier rapport du GIEC est passé complètement à la trappe dans la couverture médiatique.
Mais parce qu'aussi, il y a eu l'actualité en Ukraine qui a un peu focaliser l'attention, un peu beaucoup.
Voilà, il y a toujours une bonne raison de faire passer au second plan une urgence absolue pour nos sociétés. Donc voilà, il y a vraiment... Enfin, les citoyens doivent se saisir de ces problèmes, puisque les politiques et le monde économique bloquent aujourd'hui.
Alors, est-il encore temps de changer de cap ? On écoute ce qu'en pense Denis Midos.
Well, of course, it's always changing. I mean, life and the planet are never constant.
Bien sûr, la situation évolue constamment. Je veux dire que la vie et la planète ne sont jamais immuables. Alors que nous le voulions ou non, nous changeons de cap. Il est toujours possible de rendre les choses meilleures qu'elles ne le seraient autrement. Mais si ce que nous recherchons, c'est un modèle de société comme la société occidentale actuelle du Nord, riche, avec des intrants énergétiques élevés, c'est un fantasme. Il est trop tard pour apporter ce genre de style de vie à tout le monde, même si ce serait quelque chose de souhaitable. Mais il y a encore beaucoup de ressources et de technologies disponibles sur la planète pour donner aux gens un niveau de vie décent, une société équitable, si nous faisons les changements nécessaires.
Mathieu Ozano, est-ce que le plan de transformation de l'économie française, élaboré par The Shift Project, rejoint la vision de Denis Midault sur ce nouveau modèle à construire?
Absolument. Enfin, en tout cas, on se veut des continuateurs de ce travail, qui est un travail sur la partie diagnostic. Et nous, on essaye d'ébaucher des réponses thérapeutiques. Donc précisément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est proposer des réorganisations concrètes d'un certain nombre de grands systèmes techniques vitaux, de grands organes vitaux. J'ai parlé de la santé, il y a l'éducation.
Mais vous avez pris une quinzaine de secteurs.
Voilà. De façon, comment est-ce qu'on peut imaginer les faire fonctionner, c'est-à-dire leur faire rendre les services vitaux qu'on leur demande? On aura toujours besoin de systèmes de production industrielle, on aura toujours besoin d'agriculture, de santé, etc. Mais comment est-ce qu'on peut les réorganiser de façon à ce qu'ils soient, pas un peu, mais beaucoup plus économes, sobres, en matière et en énergie. Et dans bien des cas, ça nous semble possible.
Votre objectif est très ambitieux, atteindre la neutralité carbone.
Ce n'est pas notre objectif, c'est l'objectif de l'humanité. C'est-à-dire que oui. L'humanité tout entière en 2015 à Paris
Mais
a signé
vous
un bout de papier.
Vous proposez des pistes pour aboutir
voilà.
à cet objectif.
Le drame dans cette histoire, donc l'humanité tout entière a signé les accords de Paris qui stipulent qu'on a une génération pour nous passer de pétrole, de gaz et de charbon, qui est un gros morceau des problématiques environnementales. Donc ça, toute l'humanité l'a signé. La tragédie, c'est qu'aucune nation, pour l'heure, n'a bâti un plan, une méthode thérapeutique à la hauteur du diagnostic et de l'ordonnance. Finalement, parce que l'accord de Paris, c'est comme une ordonnance du médecin. Vous avez une génération pour arrêter, non pas de fumer, mais pour arrêter le pétrole, le gaz et le charbon. Pour l'instant, personne s'y est collé. Et c'est un drame. Et je pense que la première nation qui s'y mettra marquera l'histoire.
Et vous dites qu'il faut oublier les petites mesures, les petites initiatives. Un plan d'ensemble est indispensable. Vous défendez donc la planification. Mais est-ce que ce mot ne risque pas de faire un petit peu peur?
Peu importe. Pour moi, la thérapie me fait beaucoup moins peur que la maladie. L'idée même de laisser à mes gamins et à leurs gamins une planète qui soit peu ou prou invivable, non. Donc nous, on ébauche une méthode thérapeutique. Pourquoi est-ce qu'il faut un plan ? L'énergie, puisque là, c'est de ce dont on parle, hein, on ne parle pas beaucoup, même si c'est indirectement, si ce n'est indirectement de biodiversité ou des autres grands problèmes écologiques. Là, on se concentre sur l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'on se concentre sur l'énergie? Et pourquoi est-ce que ce problème-là réclame une approche de planification, c'est-à-dire une approche complète, systémique, on pourrait dire? Parce que l'énergie, c'est le sang. C'est le système sanguin de l'organisme collectif qui fait société. C'est ce qui apporte l'énergie, c'est ce qui apporte les nutriments qui viennent permettre aux organes vitaux, finalement, de fonctionner. Donc, s'organiser, prévoir de changer complètement ces systèmes énergétiques, c'est changer le système sanguin. C'est même pas seulement faire une opération à cœur ouvert. C'est réussir non seulement une opération à cœur ouvert, mais changer toute la tuyauterie. Et ça, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'effectivement, on a perdu déjà une génération depuis les premiers accords internationaux sur le climat. Kyoto, c'était 97, le premier grand accord international sur le climat. On n'a à peu près rien fait depuis. Ça aurait été beaucoup plus simple de commencer à l'époque, ou même de commencer à l'époque de Denis Meadows. Là, le problème aurait été beaucoup plus facile. L'opération à cœur ouvert aurait été beaucoup plus facile. Là, l'opération à cœur ouvert, elle va commencer par de la médecine d'urgence. Parce qu'effectivement, on est déjà dans une situation d'urgence. Le coyote a commencé, dont parlait Gaël Giraud tout à l'heure, il a commencé la chute. Il est plus, dans un certain nombre de cas, il s'est même déjà scratché.
Mais pour que ce plan fonctionne, il doit susciter l'adhésion de tous les acteurs.
C'est un problème politique.
Mais pas que politique. Enfin, je veux dire, il doit.
Si, c'est un problème de la police. C'est un problème de pas la police pour la matraque, de la cité.
Oui, voilà.
Voilà. Donc c'est un problème politique complet. Toutes les grandes problématiques auxquelles sont confrontées nos sociétés ont bien souvent trait à nos systèmes techniques, directement ou indirectement. Typiquement, pourquoi est-ce que l'Europe laisse faire M. Poutine aujourd'hui ? Parce qu'on est dépendant de systèmes techniques, de systèmes énergétiques qui nous permettent de fonctionner. Si on était déjà sorti du pétrole, si on avait mis en œuvre il y a une génération la sortie des énergies fossiles qui était déjà dans les accords de Kyoto en 97, on pourrait dire à M. Poutine autre chose que ce qu'on lui dit aujourd'hui. Donc c'est un problème, vraiment, c'est un problème politique complet. C'est même peut-être le plus grand, le plus intéressant, le plus fatidique, sans doute, à mon avis, problème politique qu'on puisse envisager aujourd'hui.
Alors vous proposez quand même une méthode douce, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de réduire.
Donc c'est pas forcément toujours très doux. Il y a beaucoup de choses qu'on veut interdire. On veut interdire, par exemple, aux gens qui prennent l'avion très fréquemment. En tout cas, on veut développer des alternatives.
Disons que Paris-Toulouse en avion, c'est fini, par exemple.
Ça suffit pas. Il faut que ça soit facile d'aller de Toulouse
oui,
à Paris.
Oui, c'est ça. Vous proposez des solutions de remplacement.
Il faut des investissements, mais c'est clair que dans bien des cas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que oui, il va falloir ralentir. Et ceux qui peuvent, c'est pas demander, quand on parle d'interdiction ou de sobriété, on demande pas aux gens qui ont rien ou pas grand-chose de serrer la ceinture. Ça serait idiot et surtout ça serait indécent. Mais on demande notamment à ceux qui ont l'impact carbone le plus important, c'est-à-dire les riches, de faire quelques aménagements qui vont pas non plus les empêcher de vivre heureux et libres, à notre sens.
Alors le point qui risque de heurter les écologistes purs et durs, c'est le maintien du nucléaire. C'est utopique, selon vous, de penser que les énergies renouvelables peuvent totalement remplacer les énergies fossiles et le nucléaire ?
Oui.
Pourquoi ?
Pour plein de raisons techniques. Pour plein de raisons techniques. Et d'ailleurs, j'observe que parmi les gens qui sont documentés sur ces questions-là, qu'ils soient pro ou anti-nucléaire, il y a une grande convergence aujourd'hui sur ce diagnostic, en tout cas en France. En tout cas, on s'est rapproché, les anti, les pro-nucléaires, mais qui regardent ce problème-là de manière cartésienne. Et malheureusement, la conclusion, c'est qu'on a perdu tellement de temps, tous, collectivement, en tergiversant, qu'en fait, il faut tout développer. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer produire suffisamment d'électricité et de manière générale d'énergie décarbonée sans développer toutes les alternatives au maximum de ce qu'on est capable de faire. Et puis, on verra à l'arrivée ce qui tient le plus la route. Nous, au Shift, on considère que c'est très difficile de boucler l'équation sans nucléaire. Mais en tout cas, il faut nommer ça. La seule chance qu'on a par rapport à ces enjeux-là, c'est qu'ils sont quantifiables. Ils sont largement objectivables. C'est un problème politique, mais ce n'est pas un problème politique classique, purement éthique ou moral. On parle de tonnes de trucs, on parle de joules. Donc on peut se mettre en cartésien d'accord sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, ou sur ce qui reste à déterminer.
Aurélien Bouteau, je peux vous demander ce que vous pensez des pistes avancées par le Shift Project ?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une solution. Déjà, là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la question de la temporalité, ça c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et le retard qu'on a pris, c'est-à-dire grosso modo, on n'a quasiment rien fait pendant 50 ans. Or, on l'a vu, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est des transformations absolument fondamentales sur une génération, une transition. Quand on parle de transition dans un système socio-technique, il y a eu plein de travaux qui ont été faits sur la question, qui montrent que ça prend au moins une génération, c'est-à-dire 30 ans. Donc se dire la neutralité carbone au cours des 30 prochaines années, c'est ce qu'il faut faire, c'est hyper ambitieux pour donner quand même des ordres de grandeur. Aujourd'hui, l'empreinte carbone d'en français, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 par habitant et par an. Il va falloir tomber quasiment à zéro. Alors que si on regarde ce qu'on a fait au cours des 30 années précédentes, on n'a pas fait bouger notre empreinte carbone. Donc on voit qu'en 30 ans, on n'a quasiment rien fait, aucun progrès. Et en 30 ans, la génération à venir, il va falloir en gros diviser par 10, voire arriver à zéro. Donc le changement est phénoménal. Et il y a un autre élément de temporalité qui en plus bouleverse tout ça, c'est qu'il ne suffit pas d'arriver à la neutralité carbone dans 30 ans. On a des phénomènes, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle des points de bascule. Donc à un moment donné, on a une espèce de budget carbone qu'on ne doit pas pouvoir dépasser. Et s'il ne suffit pas d'atteindre donc la neutralité carbone en 2050, il faut diviser quasiment par deux les émissions mondiales au cours des 10 prochaines années. Et ça ne peut s'envisager effectivement qu'en mettant en œuvre très rapidement des politiques d'urgence, d'urgence climatique. Il faut vraiment comprendre que l'urgence climatique, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste un slogan. Ça suppose une mise en action de mécanismes d'urgence qu'on utilise typiquement dans des situations de conflit d'un seul coup, il y a une priorité qui doit être, qui doit prendre le dessus sur toutes les autres. Et c'est précisément parce qu'on n'a rien fait au cours des 30 ou 40 dernières années qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir se dire, bah oui, il faut jouer sur tous les leviers d'action. Et moi, je suis fondamentalement anti-nucléaire. Je pense que ce serait une erreur considérable de miser sur le nucléaire. Mais parce qu'on n'a rien fait, on risque effectivement peut-être de devoir être obligé d'en passer par là. Et moi, je regrette vraiment que, en fait, on a tellement attendu qu'on a considérablement réduit nos choix possibles et même nos choix techniques, technologiques. Ça, il faut vraiment avoir en tête que cette question de la temporalité, elle est centrale. Donc maintenant, il va falloir aller vite et il va surtout falloir aller très vite sur le débat démocratique parce que c'est des questions qui sont immenses devant nous. Et se dire qu'un président de la République va décider à lui seul si on relance le programme nucléaire ou pas, dans quel... ça, c'est pas possible. Il faut débattre urgemment de ces questions-là et les poser sur la table pour en faire le cœur des débats démocratiques et des débats politiques. En plus, ça redonne du sens à la société et je pense que tout le monde est en attente de ce genre de questions dans les débats politiques. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas du tout saisis, ces enjeux-là. Vraiment, l'urgence, elle est là déjà, dans le débat démocratique.
Ben voilà, les candidats à la présidentielle en France parlent très peu de la transition énergétique. Mathieu Ozanneau, vous leur avez adressé ce livre-là qui vient de paraître chez Odile Jacob.
Oui, pour rien vous cacher, on est même en train d'analyser leurs réponses.
Ils ont répondu ? Tous les candidats ont répondu ?
Non, sauf un certain Emmanuel Macron, pour l'instant, qui n'a pas encore publié son programme. Tous les autres ont répondu. On leur a demandé comment est-ce qu'eux, ils mettaient en œuvre les accords de Paris. Nous, notre rôle, je rejoins complètement ce qui a été dit, on ne prétend pas épuiser le sujet. Le sujet, c'est un sujet pour la nation tout entière. Mais on prétend tenter de lancer une conversation cohérente, sur des bases cohérentes. Il ne faut quand même pas désespérer. Pour ma part, ça fait une génération que je fais du don-quichotisme, que je pagaille à contre-courant. La société a beaucoup évolué, puissamment et plutôt dans le bon sens, au moins sur la prise de conscience. C'est déjà ça. C'est très tard. Mais c'est déjà ça. Donc il ne faut pas désespérer. Je pense qu'on peut encore reprendre notre destin en main. Et c'est, je le redis, et c'est ce que je crois qu'on converge là-dessus, c'est éminemment politique.
Mais d'après les premières réponses que vous avez reçues, qu'est-ce qui s'en dégage ? Est-ce qu'ils ont compris l'enjeu ?
Ce qui est intéressant, c'est que
l'enjeu,
il n'y a plus de débat. Il y en a eu longtemps, Dieu sait. Il n'y a plus de débat sur le diagnostic. Maintenant, sur la méthode thérapeutique, justement, la conversation va pouvoir commencer. Mais ne serait-ce que sur l'idée qu'on est sur un sujet fondamental qui va réclamer des réorganisations profondes dans non seulement les modes de production et les techniques choisies, mais surtout finalement dans les organisations. Alors il y a des degrés divers de prise de conscience de ça, mais c'est là un peu partout, presque chez tout le monde. Je peux témoigner qu'il y a très peu de temps encore, c'était nulle part chez la plupart. Voilà, donc bon. Ça avance quand même, ça finit par avancer. Après, on est confronté à un enjeu à l'échelle des sociétés. Bon, je prenais l'exemple d'un malade, quelqu'un qui est fumeur et qui se rend compte qu'il lui faut arrêter de fumer. À l'échelle individuelle, ça peut prendre plusieurs années. Entre le moment où on se dit, bah oui, évidemment, il faut que j'arrête de fumer, et le moment où on arrête de fumer concrètement. Je parle en connaissance de cause, étant moi-même ancien fumeur. Bon, ben, à l'échelle d'une société, il n'est pas très surprenant qu'il faille, grosso modo, une génération pour qu'on se réveille. Bon, ben, c'est maintenant. Je ne peux pas me résoudre à une position qui serait désespérée. Non. Je pense qu'on est vraiment sur un moment fatidique, et l'histoire n'est pas terminée.
Audrey Boëlly, travailler pendant des mois sur cette série de podcasts, Dernière Limite, vous a encore plus inquiété sur l'avenir de la planète ou au contraire, est-ce que vous êtes rassurée parce que vous savez qu'on peut encore agir ?
Bah, moi, je trouve qu'on est déjà beaucoup moins inquiet quand on regarde le problème dans les yeux, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'affronter la réalité et de mettre en place les solutions. Le pire, c'est de ne pas savoir. Et puis, moi, ce qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'est finalement que tous les scientifiques et les experts que j'ai rencontrés me disent tous que les solutions, elles existent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une opportunité de faire ce changement. Et je pense que voilà, il faut qu'en tant que notre génération se saisisse de ce problème.
Merci à tous les trois d'avoir été les invités de C'est pas du vent. Audrey Boëlly, les deux premiers épisodes de votre série Dernière Limite, produits par Saga Sounds, sont à écouter sur les principales plateformes de podcast. Aurélien Bouteau, merci d'avoir été en ligne avec nous d'Annecy. Vous avez coécrit avec Natacha Gondran Les Limites Planétaires aux éditions La Découverte. Et Mathieu Ozanneau, merci à vous, directeur du Shift Project, dont le plan de transformation de l'économie française est paru chez Odile Jacob. Je signale également la réédition à l'éco-poche du rapport Les limites à la croissance avec une préface inédite de Denis Meadows. Merci à François Porcheron qui a réalisé cette émission et à vous qui nous écoutez. À bientôt et portez-vous bien.